Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe, le 10 juillet 1992 à Saint-Jodard. Thème, la vérité.
Je continue cette petite réflexion sur la vérité dans l'art. Puis je verrai juste l'inverse, pas l'inverse, mais l'autre extrême, les deux extrêmes sur lesquels il faut tout le temps venir. Et on essaiera de conclure, qu'est-ce que la vérité, la ratio veritatis? Dieu, la vérité est éternelle. Il y a donc une vérité éternelle qui est Dieu. Je crois que vous avez quand même suffisamment saisi qu'il y a diverses modalités de la vérité. Alors, dans l'amitié, en science, dans les autres sciences, dans les sciences expérimentales, ce serait très intéressant à voir ça. Et puis, en métaphysique, adéquatio de ce que l'intelligence connaît avec la réalité. Ceci n'est vrai qu'avec le chemin d'existence. En dehors du chemin d'existence, je n'atteins pas directement la réalité. Et la réalité ne peut pas donc être la mesure. Dans l'art, c'est complexe, la vérité. C'est pour ça que je ne crois pas. Gens qui, au fond, acquièrent une certaine sagesse. donnez-lui. Demandez-lui de faire la même chose. Point de vue peinture, architecture, musique. Je dirais, c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est d'être critique d'art. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que d'être critique d'art? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes un rhéteur. Vous vous habillez du manteau de l'artiste. Mais vous ne savez pas faire quelque chose. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas le droit de critiquer. Vous voyez, on vit un monde de sophistes qui croient qu'ils peuvent tout critiquer. Un journaliste croit qu'il peut tout critiquer. Vous croyez? Même un curé, il peut critiquer un curé. Il peut critiquer un novice. Au nom de quoi? Au nom de sa religion, il n'en a pas. C'est très important de comprendre ces choses-là parce qu'il ne faut pas entrer dans le jeu. Quand on a assisté à certaines choses et qu'on voit après les critiques, on dit mais il n'a rien compris. Il était complètement à côté. Et il se fait critiquer au nom d'une rhétorique, au nom de son opinion. Ça ne correspondait pas à son opinion. Mais est-ce que vous avez le droit de critiquer un artiste, un artisan, au nom de votre opinion? Mais absolument pas. Tandis que si vous avez réalisé quelque chose de mieux, là je comprends. Vous pourrez dire, oui, d'une certaine manière. Mais je crois que celui qui a réalisé quelque chose de mieux ne critique pas. Parce qu'il sait la difficulté de réaliser quelque chose de bien. Vous voyez, je vois, c'est un autre ordre, mais je vois les critiques qu'on fait au plan philosophique. Au soir, chez les Dominicains, on avait une revue, et il y avait toujours la critique qui continue du reste. Il y en avait, chaque frère, chaque père qui enseignait avait 30, 20, 30 articles de revue, de livres à faire l'ascension. Donc, critiquer. Quelqu'un a mis 5 ans à écrire un livre. Vous le lisez en 3 jours. Si vous êtes très spécialiste dans la matière, je comprends. Vous pouvez le faire. Surtout si depuis 20 ans ou 30 ans ou 40 ans vous étudiez la même chose. Là vous avez le droit. Mais si vous n'avez jamais étudié, on a le toupet de critiquer. Au nom de quoi? Oui, je crois que c'est très important de se demander au nom de quoi on critique. Y a-t-il un critère d'art poétique, d'art de charpentier, d'art de violoniste qui soit commun? On dit toujours, et c'est la vieille tradition, les arts ne sont pas connexes. Vous pouvez être un excellent violoniste et être nul en poésie. Vous pouvez être un chanteur de premier ordre et être nul en architecture ou en sculpture. C'est très curieux. Et même ça arrive que plus on creuse, plus on comprend la matière dans laquelle on est. Et on a de la peine. On peut cumuler, hein, ça oui. Surtout pour l'enseignement. Parce qu'on peut voir les choses communes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de générique dans l'art? Je crois pas. Je crois que l'art est essentiellement analogique. C'est-à-dire que chaque art a quelque chose de spécial à dire. À dire de l'homme. À dire de la nature liée à l'homme. vérité du poète. La vérité du poète, c'est très proche de la sincérité. Ah, tiens. Est-ce qu'en art, sincérité et vérité sont identiques? En partie. En partie. C'est un élément de la vérité. Un poète qui ne serait pas sincère n'est pas un poète. Mais c'est très différent de la sincérité, de la vérité. Dans l'amour, il y a des jours où la vérité de l'ami à l'égard de son ami dépasse sa sincérité parce qu'il est de mauvaise humeur. Tandis qu'un artiste, s'il est de mauvaise humeur, ah, aujourd'hui je ne peux pas travailler, je ne suis pas en état de grâce. C'est-à-dire qu'il est de mauvaise humeur vis-à-vis de son art. Alors il fera n'importe quoi. Et son épouse, s'il est marié, dira mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne gagnes pas ta vie. Non, je ne peux pas. Je me souviens, il y avait comme ça chez nous un père qui ne faisait ses cours que quand il était inspiré. Parce qu'il était très artiste. Ah, si je peux pas, mais elle dit, mais écoutez, préparez la matière. Oui, mais la matière, c'est pas suffisant. Il faut être inspiré pour faire un cours. C'est vrai, il y a un art dans un cours pour faire passer quelque chose. Quelle est la vérité du poète? Il implique d'être sincère. Une sincérité affective vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des personnes qu'il rencontre, vis-à-vis, vous voyez, au fond, l'art, c'est l'homme présent dans le monde. C'est la présence de l'homme dans la foule. C'est la présence de l'homme seul dans le désert. C'est toujours l'univers, il y a toujours un arrière-fond. Et c'est son émotion profonde, son émotion. Et donc, la sincérité est absolument nécessaire. Mais il y a quelque chose de plus que la sincérité. Ce n'est pas suffisant, la sincérité. Il doit exprimer ce qu'il ressent. Il doit exprimer ce qu'il ressent lié à la nature. Lié à la nature. Lié aux fleurs, aux arbres, aux animaux, lié à toute la nature. Et le poète regardera l'homme aussi, non pas comme l'ami, mais comme la nature. C'est très curieux le regard du poète sur l'homme. C'est pas le regard de l'ami sur son ami. C'est un autre regard. C'est un regard de complémentarité, très souvent. C'est un regard de rencontre. Je t'ai vu ce jour-là, sous le figuier. C'est assez poétique, hein. Je t'ai vu sous le piguet. C'est pas amical directement, mais c'est plutôt poétique. Première fois que vous avez voulu rencontrer quelqu'un, je t'ai vu sous le figuier. Remarquez de temps en temps, hein. L'amour aussi. Le coup de foudre de Jacob pour Rachel. C'est le seul qui est raconté dans l'écriture. Il y a eu un coup de foudre. Il se rappelle très bien quel moment. Elle était là. Elle était à l'abreuvoir. Elle faisait boire ses chèvres et ses moutons. Et elle a levé son voile. Oh. Il y a eu un coup de foudre. Il y a eu une lumière. Une lumière extraordinaire pour... Jacob qui était remué jusqu'au bout de son cœur, au plus intime de son cœur. Et puis il dit ça. C'est poétique, il y a beaucoup de choses très poétiques dans l'écriture. Un des endroits les plus poétiques de l'écriture, je crois, du moins personnellement, c'est quand Joseph retrouve ses frères. Ça, si on avait le temps, on lirait ça et on verrait la vérité de ce récit. C'est une vérité extraordinaire. tous les sentiments de Joseph y sont. Voyez, la vengeance. Comment il avait quitté ses frères, retiré du puits, la dernière vision de ses frères, auprès du puits, vendu aux Égyptiens. Il les avait sûrement regardés une dernière fois. Il les retrouve comme des mendiants qui viennent réclamer du blé à cause de la famine. Et lui, à la place du pharaon, justice immanente de Dieu. C'est extraordinaire, ça, c'est une fin. Et au-dessus de cet assentiment de vengeance, il y a l'amour fraternel qui dépasse. Alors, vous voyez, la vérité dans la poésie, c'est d'exprimer un sentiment humain, authentique, vrai, de rencontre, d'absence, de vengeance, d'amour, et l'exprimer dans un cadre donné de la nature, de la réalité, sous tel soleil, avec tel âge, la rencontre qu'on fait d'un enfant. Je vous souviendrai toute ma vie. C'était pendant la guerre. On allait du Saulchoir à Étiole, à Paris, en bicyclette, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen. Et quelquefois, c'était par la neige. Et il y avait une neige. C'était sur la Nationale 7. Je vois, il y a très peu de monde sur la route. Tout d'un coup, deux gosses qui brûlent sur la neige. J'essayais de filer à toute vitesse. J'ai roulé dans la neige pour arriver à arrêter et brûler vif. Ils avaient des allumettes. C'est bien le contraste du feu et de la neige. Je comprends très bien. Des petits poètes. Et c'est dangereux de s'amuser avec le feu et la neige. Ils brûlaient. Alors, voyez là, si j'étais poète, je raconterais ça, le poème de deux gosses, à tel moment, pendant la guerre, à l'envers de toutes les circonstances, seul sur la route, il y a deux gosses, et il n'y a personne. Il fallait les conduire tout de suite à l'hôpital, parce qu'ils étaient assez brûlés. Le feu était arrêté, c'était déjà quelque chose. Je ne pouvais pas faire autre chose. Alors j'ai arrêté une voiture, je leur ai demandé, conduisez-les tout de suite à l'hôpital. C'est ce qu'ils ont fait du reste. Et puis moi j'ai continué ma route en les portant dans mon cœur. Et en suppliant que. Et puis j'ai pas su après, parce que je ne pouvais plus les chercher après. Vous verrez, on souffre au ciel. C'est une drôle de rencontre au ciel. Et alors on sera poète pour l'éternité. Et ces rencontres alors sont merveilleuses. Vous voyez, alors, la vérité, elle est complexe. Elle n'est pas simple du tout. Je crois que la vérité du poète, elle est par rapport à ses sentiments. Elle est par rapport au contexte. Il y a une harmonie de vérité. Et elle est par rapport à la matière dont on se sert. Et la matière, c'est le langage. La matière du poète, c'est le langage. Il y a une harmonie entre tout ça et les instruments dont il se sert. Les instruments dont il se sert, ça peut être une stylique, ça peut être un poète, les vers, l'harmonie des vers. C'est tout ça qui fait la vérité. Y a-t-il une harmonie, une unité entre tout ça? Ou y a-t-il au contraire quelque chose qui fait que c'est plus harmonieux du tout? Mais quelquefois, on veut exprimer la désharmonie, un monde cassé. Nous vivons un monde cassé. Et c'est pour ça que la peinture et que la poésie sont tellement cassées. Parce qu'il va l'exprimer un monde cassé. Alors à ce moment-là, c'est la rupture. On veut montrer le choc particulier et la violence. D'autres veulent montrer la douceur. Vous voyez, comme c'est complexe, la vérité. Il y a une vérité dans l'art, dans l'œuvre. Est-ce que l'œuvre est conforme à ce que porte le poète? Est-ce que ce que le poète porte dernier lieu, elle implique une conformité avec la matière. Ça, ça se voit tout de suite, surtout dans l'art artisanal. Elle est conforme à la finalité. On veut mettre de la joie dans celui qui le lit. La haine, il proclame une poésie, un chant. Il veut donner de la joie. Il veut donner de la tristesse. Il veut pacifier. L'harmonie avec la matière dont on se sert, avec le sentiment profond qu'on éprouve, avec le cadre dans lequel on est, et avec la finalité profonde de l'homme. Je crois, alors, vous voyez, je crois qu'une œuvre artistique qui serait en contradiction, mais violente, avec la finalité profonde de l'homme. Puisque toute œuvre d'art provient d'un homme. Si elle brise la finalité de l'homme, je crois que cette œuvre d'art est une œuvre d'art dangereuse. Elle peut être démoniaque. Y a-t-il une vérité dans le démon ? Les fleurs du mal. Y a-t-il une vérité dans le démon ? Il y a une sincérité. Et un artiste sincère, c'est déjà beaucoup. C'est pour ça que le démon peut être source de certains drames qui sont sincères, authentiques. Sincérité demande d'être dépassée dans l'œuvre pour être en conformité avec la sensibilité de l'homme, avec son intelligence et son cœur, en conformité avec la personne humaine et la finalité de la personne humaine. Je crois qu'une œuvre d'art qui serait anti-homme n'est pas vrai. Vous voyez, elle pourrait être sincère, mais elle ne serait pas vraie. Ce serait un art démoniaque. Il y a un art démoniaque qui est un art de pure sensibilité, de pure sincérité, et qui va aller jusqu'au bout de la sincérité, même si elle brise complètement l'homme. Sincérité. Et je ne peux pas ramener la vérité de l'art à la pure sincérité, mais je dis que la sincérité dans l'art joue un rôle très important. Vous allez tout de suite comprendre, j'espère, ce que j'essaie de montrer ici. La psychologie de l'artiste. De l'ami. Ce qui me frappe, c'est que l'amour d'amitié de l'ami, comparativement à sa psychologie, et l'artiste qui réalise son œuvre, qui contemple son œuvre et sa psychologie. Parce que la psychologie n'est pas par elle-même une activité artistique. Du moins, n'étudie pas directement l'activité artistique. La psychologie n'étudie pas directement l'amour d'amitié. Mais le comportement de l'artiste et le comportement de l'ami. loin ton psychologue. Je crois pas. Puisque la vérité d'une activité morale, c'est la conformité à la fin, à la finalité. La vérité de l'ami, c'est être conforme à l'amour qu'il a pour son ami. Le psychologue étudie le comportement d'un homme en harmonie avec tous ses comportements. Avant tout, la finalité lui échappe. La vérité de l'artiste implique de l'œuvre artistique, et donc de l'artiste dans son œuvre, implique une sincérité qui est très proche de l'œuvre à réaliser. Et cependant, l'œuvre réalisée est plus que la sincérité. Alors, quel est ce plus qu'on trouve chez l'artiste, plus que sa sincérité? C'est justement, il faut que son œuvre soit en conformité avec la matière dont il se sert. Ce que la sincérité ne dit pas et ne peut pas dire. Parce que la matière doit être étudiée pour elle-même. Et la matière est toujours quelque chose d'extérieur à la sincérité. Elle est toujours extérieure à l'activité même de l'artiste. Et une œuvre d'art n'est vraie que s'il y a conformité avec la matière. Et d'une façon ultime, conformité avec tout le développement authentique de l'homme. Puisque toute œuvre d'art est pour l'homme, pour sa contemplation, son bien-être ou son utilité. Voyez, si vous faites une œuvre qui empoisonne l'homme, est-ce que votre œuvre est vraie? Une industrie pharmaceutique, je prends l'exemple, une industrie pharmaceutique, parce que c'est peut-être là où on le voit mieux, une industrie pharmaceutique qui construit des produits nocifs pour l'humanité. Il a fallu un tel investissement pour produire ce produit qu'il faut à tout prix qu'il sorte et qu'il soit vendu. Alors on vante les qualités, mais on ne vante pas les choses secondaires, hein. les réactions secondaires. Avec ça, votre mal de tête disparaîtra dans les quarts d'heure. Hein. Avec ça, vous serez euphorique durant toute la journée. Puis on ne dit pas du tout ce que ça donnera après. On ne dit pas. Mais l'exemple classique, c'est la pilule. C'est l'exemple numéro un. Il faut que ça se vende. Je me souviens, j'avais affaire à un prêtre ouvrier qui vendait la pilule. Parce que le Saint-Père l'avait condamné. Alors je dis, et vous, anticapitaliste, vous faites ça? Alors il m'a regardé, ouais. Mais c'est le meilleur produit capitalisme. Il m'a regardé, il est devenu blême. Je dis, ah, j'avais pas pensé. Non. Vous auriez dû y penser. L'industrie pharmaceutique, on le sait, dans sa fine pointe. Les vrais pharmaciens, c'est autre chose. Mais l'industrie pharmaceutique, on sait très bien. Voyez, je vous rappelle un petit exemple, parce que là aussi j'étais témoin. De Gaulle, qui avait des idées de temps en temps géniales. De Gaulle avait réuni un petit séminaire. Pour penser sur le De Gaulle de 1985 en disant 1985. Tant que De Gaulle était là, elle avait un prestige. Mais après lui, il faudrait que deviendrait le De Gaulle 1985. Il faut la relever. Alors il avait posé la question à le premier biologiste qu'il avait invité, qui était Jean Bernard. Je viens avec le progrès de la science, quand même, de la biologie. En 1985, vous pourriez quand même, je crois, arriver, étant donné votre génie, arriver à faire que pour la France, elle a besoin de 5 Mozart. Produisez-lui 5 Mozart. Vous savez ce qu'a été la réponse? Je l'ai su par un témoin. C'était le premier PDG que De Gaulle avait choisi. Alors Jean Bernard a répondu: vous répondre oui, ce serait peut-être un peu présomptueux, mais je ne peux pas vous répondre non. Autrement dit, Jean Bernard, à ce moment-là, c'était au moment de De Gaulle, non, la splendeur de De Gaulle, n'osez pas dire qu'en fonction du progrès de la technique et de l'art pharmaceutique, on arriverait peut-être à produire des génies. Et donc, peut-être, mais je n'oserais pas vous répondre non parce que je suis confiant dans ce progrès. Et alors, ce qui était très extraordinaire, c'est que les raisonnements de tous les autres ont été édités. Seul celui qui a parlé de l'art pharmaceutique et de l'industrie pharmaceutique, ce qu'il a dit était tellement affolant que De Gaulle a dit: on ne peut pas publier ça. C'est lui qui a fait la censure. Et c'est quand même assez dingue. J'ai dit ça à ce prêtre ouvrier, en lui montrant qu'il coopérait avec le capitalisme. Alors il n'a pas fait au moins du moral, mais il l'a fait parce qu'il était anticapitaliste. Il fallait trouver, vous voyez, de temps en temps, il faut être des rhéteurs. Donc il faut trouver l'argument ad hominem, celui qui pique le cœur. C'est un argument vrai, du reste, c'est tout à fait juste. Alors, voyez, dans l'industrie, est-ce qu'un produit est vrai? Est-ce qu'un produit est erroné? Est-ce qu'on a le droit de coopérer à un produit qui est faux? Allez, c'est la vérité, elle va jusque-là. Est-ce qu'on a le droit de dire? Voyez, je me souviens d'une retraite prêchée, je donne des exemples, hein, c'est pas des bouquins ça, c'est des exemples qui sont des exemples de gens qui vivent ça et qui vous posent la colle. On doit pouvoir répondre, je dis: ah non, on ne peut pas répondre à ça, Saint-Thomas n'a pas répondu à ça, donc je te dis. Comprendre que ce que nous dit Saint-Thomas doit nous permettre de comprendre ça, si Saint-Thomas est vrai, ce que dit l'Écriture et ce que dit ma philosophie. Parce qu'il s'agit de trouver l'argument philosophique. L'art a une vérité. L'art a une vérité. Et c'était ce chef d'entreprise que De Gaulle avait choisi, que je connaissais bien. Tu vois ce qu'il m'a raconté, comment ça se passait. Comment ça s'est passé, il m'a tout dit, de sorte que j'ai su tout ce qui se passait dans ce séminaire. C'était intéressant. Ça m'a intéressé beaucoup. Ce chef d'entreprise, un beau jour, m'a dit, il était l'ami d'un de mes amis. Et c'est cet ami qui lui avait dit demander ça au père Philippe. Alors j'ai été le voir. Il m'a dit, je viens de poser la question à un théologien, je ne cite pas le nom, je ne dis pas qui, pas la peine. Il a dit, est-ce que, au point de vue industrie, c'était ce chef d'industrie qui posait la question. Est-ce que, pour un chef d'entreprise, la vérité, c'est tout simplement le fait de survivre et le profit. Et ce théologien lui a dit oui. Vous êtes dans la vérité comme industriel si vous regardez la survie de votre industrie et le profit. Cet industriel, dans le fond de son cœur, a dit, mais non, c'est pas vrai. Il faut que je vois un autre théologien. Alors évidemment, quand il m'a posé le problème comme ça, j'ai dit non, c'est pas suffisant. Le critère de la vérité, au point de vue industriel, c'est pas le profit. Ça peut pas être le profit, parce que vous utilisez des hommes, vous utilisez le travail humain, et il y a la dimension humaine que vous devez regarder. C'est pas le profit seulement. Et puis, est-ce que votre produit est bon? Ou est-ce qu'il est mauvais? Pas le droit de fabriquer des produits pharmaceutiques qui vont empoisonner les hommes. Absolument pas. Vous savez bien, on a parlé il y a quelques années, moi j'oublie le nom de ces produits parce que je m'encombre pas la mémoire de ces noms, mais c'est quand même quelque chose d'assez affolant quand on a fait ce produit. On avait fait des expériences sur les animaux, mais c'est pas la même chose quand on passe de l'animal à l'homme. Toutes les mères qui avaient pris ce produit, qui attendaient un enfant, leurs enfants étaient abîmés. Abîmés. Après un bras en moins, juste. Tout simplement parce que, de fait, ce produit était nocif, et terriblement nocif. Vous voyez la vérité dans l'industrie. Donc, pensez, et c'est difficile à préciser, hein. Il faut le chercher. Alors je passe maintenant à l'extrême. Il y a une vérité, alors beaucoup plus lumineuse, parce que dès qu'on est dans le travail, il y a toujours le facteur matière qui est opaque. Il y a le facteur de l'inspiration de l'homme. Il y a le facteur de travailler pour les hommes. Donc vous avez trois facteurs qui entrent dans la vérité du travail. Artisanale, artistique, industrielle. Toujours trois facteurs. Pour dire que vous êtes dans la vérité. Si un de ces trois facteurs ne sont pas justes, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le profit ne suffit pas. Et on comprend très bien, le profit est quantitatif. Ça ne suffit pas. Je sais que ça peut poser des tas de problèmes et des questions qui sont terribles. C'est évident, mais il faut au moins être lucide. On ne demande pas de solution tout de suite. On demande au moins de chercher et ne pas travailler à l'aveugle. Un artiste qui produit des choses qui risquent de conduire au désespoir. Vous voyez, au cinéma, des films qui conduisent au désespoir. Est-ce que vous avez le droit? Est-ce que c'est une œuvre artistique qui est vraie? Je dirais non. Elle conduit au désespoir. Alors on dira qu'il y a peut-être des éléments très beaux, mais l'œuvre comme telle, elle tue l'homme. Si elle tue l'homme, elle ne peut pas être vraie. C'est pas l'aspect moral, c'est l'aspect de la finalité de l'homme. Alors, l'autre extrême, c'est la vérité du jugement de sagesse. Alors, j'explique. C'est la vérité la plus grande. La vérité, au plan philosophique, la plus noble. Le philosophe ayant découvert l'existence de Dieu, ayant dévoilé l'existence de Dieu, dévoile le Créateur. Et à partir de là, comprend ce qu'est l'homme dans la lumière de la création. peut le dire comme vérité philosophique. Un homme qui n'adore plus est un errant. Il ne sait plus où il va. L'homme découvre sa finalité fondamentale quand il adore. Et donc, l'angoisse qui existe dans le monde aujourd'hui provient en grande partie du fait que les hommes n'adorent plus. Quand on dit ça, on dira, oh, je suis complètement malade. Pas du tout. Les psychanalystes autrichiens l'ont dit. Ils ont découvert que ce qu'il y avait de plus terrible, le plus grand déséquilibre qu'on pouvait faire dans l'homme, c'était de l'empêcher de développer sa stabilité fondamentale. L'homme d'aujourd'hui est un homme déraciné, donc errant. L'errant, c'est le déraciné. Vous pouvez être un errant dans le désert, mais quand vous êtes un errant dans la ville, vous êtes un fou. Celui qui est errant dans le désert n'est pas fou. Mais celui qui est errant dans la ville, il devient fou. Il tourne en rond. Il ne sait pas où il va. Plus aucune porte. Quand il tape la porte, plus aucune porte s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il fait, cette angoisse? C'est parce que l'humanité n'adore plus. Donc elle ne retrouve plus sa stabilité, sa finalité. C'est comme un bateau dont on a supprimé la direction. Il n'y a plus personne au gouvernail. Le gouvernail est bloqué ou il n'existe plus. C'est encore mieux. Le bateau va à la dérive. L'humanité conduite par des errants va à la dérive. Autre chose est dire qu'est-ce qu'on doit faire pour l'empêcher d'aller à la dérive. On doit constater ça. C'est déjà beaucoup de le constater. Il n'y a plus de finalité de l'homme. La finalité de l'homme ne peut pas être gagner de l'argent. C'est pas la finalité. La finalité de l'homme ne peut pas être la liberté. Parce que si vous êtes libre et que vous savez pas quoi faire, c'est encore pire que tout. Vous avez beaucoup d'argent. Pourquoi certaines personnes qui, au point de vue économique, ont tout ce qu'il leur faut et se suicident à 20 ans? Ce sont des errants. Ils sont libres, mais ils savent pas quoi faire. C'est pas la liberté qui détermine ma vie. La liberté est une condition nécessaire à un amour. C'est l'amour qui vous rend libre. Et ce n'est pas la liberté qui crée l'amour. Et donc la liberté n'est pas une finalité. Je n'insiste pas plus, mais je pourrais regarder dans la lumière de la création tout ce que je découvre dans l'homme. Je découvre dans l'homme autre chose. Et la recherche de la vérité, autre chose est l'amour. Mais s'il n'y a pas d'opposition entre les deux, mais s'il y a un ordre, la vérité reste. La vérité existe quand l'intelligence est ordonnée à l'amour. Quand l'intelligence s'oppose à l'amour et lutte contre l'amour, c'est une intelligence qui n'est plus vraie. Une philosophie qui s'oppose à l'amour est une philosophie fausse. C'est pour ça que quand vous voulez regarder le caractère de vérité d'une philosophie, regardez tout de suite ce que ce philosophe dit sur l'amour. Et ça, vous comprendrez. Si ce philosophe ne parle jamais de l'amour, attention. Si ce philosophe ne parle jamais de la personne humaine, attention, beaucoup plus que la liberté. Sartre parle de la liberté, mais ne parle pas de l'amour. Ou s'il en parle, il ne sait plus très bien ce que c'est. Alors vous, tout de suite, vous voyez la limite d'une philosophie. On ne peut pas parler de l'amour. Pour Sartre, c'est la négation qui est première. Alors la haine est première. J'aime dans la mesure où j'ai de la haine. Hein? Tandis que je peux dire, dans la mesure où j'aime, nécessairement je devrais lutter contre de la haine. J'accepte l'erreur, et je prône l'erreur, et je comprendrai la vérité. Pas du tout. Je cherche la vérité et je rencontrerai des erreurs sur ma route. Il y a un primat de la vérité sur l'erreur, il y a un primat de l'amour sur la haine. Il y a un primat de l'affirmation sur la négation. Vous voyez, j'en arrive moi personnellement à considérer que la modernité, c'est le primat de la négation sur l'affirmation. Le primat de la haine sur l'amour, le primat de l'erreur sur la vérité. Donc c'est très fondamental ce tournant. Il est vieux. Il est très vieux. Il dépend du 14e siècle. Si je cherche la source. C'est extraordinaire. Et c'est un théologien. Le primat de la négation. Vous comprenez? La négation semble nous libérer. Et donc si vous mettez la liberté au-dessus, vous affirmez la négation au-dessus de tout. Le gosse à 4 ans nie en premier lieu, paraît-il, selon les psychologues. C'est l'âge de la négation à 4 ans. Il nie parce qu'il a peur. C'est comme le petit roquet qui aboie parce qu'il a peur. Vous croyez que c'est parce qu'il veut vous mordre? Mais non, il a peur d'être mordu. Cerner dans l'aboiement la peur d'être mordu et celui qui veut mordre, celui qui veut vraiment mordre n'aboie pas, il mord et aboie après. Faites-en l'expérience et vous verrez que c'est vrai et vous comprendrez le primat de l'affirmation sur la négation. C'est quelque chose de fondamental. Alors maintenant, dernière réflexion. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité implique toujours un ordre vers quelque chose de fondamental qui joue le rôle de mesure. Un ordre. Il n'y a qu'en Dieu où la vérité est l'identité dans son être. Et en dehors de Dieu, il n'y a pas identité entre pensée et être. Et ça, je peux l'affirmer dans la vérité d'un jugement de sagesse. Dans toute créature spirituelle, l'exister, l'être, est fondamentale et la pensée n'est pas adéquate à l'exister. Or, la vérité dans toute créature spirituelle est premièrement dans l'intelligence et elle montre une intelligence parfaite. C'est la qualité propre de l'intelligence. Et c'est la qualité propre d'une intelligence. Or Dieu, c'est l'identité de l'être et de la pensée. L'identité de l'être et de la pensée. C'est pour ça que Dieu est vrai, une vérité substantielle. En dehors de Dieu, la vérité n'est pas substantielle. Elle est premièrement dans l'intelligence humaine et elle exprime l'adéquation de l'intelligence avec l'être. Je dis bien avec ce qui est. Elle est donc qualité de l'intelligence. Mais la vérité est aussi dans la réalité. Et elle exprime comment la réalité est capable de déterminer l'intelligence. Parce que pour la mesurer, il faut qu'il y ait un certain lien avec l'intelligence. Il faut que la réalité soit capable de déterminer l'intelligence pour être la mesure de l'intelligence. Et la vérité sera aussi dans la réalité. Jugement de sagesse. Quand je comprends que cette réalité qui existe est mesurée.